Il me sembla que l'abbé était satisfait de pouvoir changer de discours. Il se mit donc à raconter, avec grande prudence dans le choix des mots et longue circonlocution, un fait singulier qui s'était passé quelques jours auparavant et qui avait laissé un grand trouble parmi les moines. Et il dit qu'il en parlait à Guillaume, parce que, le sachant grand connaisseur de l'âme humaine et des trames du malin, il espérait qu'il pourrait consacrer partie de son temps précieux à faire la lumière sur une fort douloureuse énigme. Adelme d'Otrante, un moine encore jeune et pourtant déjà célèbre comme maître enlumineur, avait été trouvé un matin par un chevrier au fond de l'escarpement dominé par la tour orientale de l'édifice. Puisque les autres moines avaient noté sa présence dans le chœur pendant complie, mais qu'il n'avait pas reparu à matine, il était tombé au fond de la pique, probablement durant les heures les plus noires de la nuit. Nuit de grandes tempêtes de neige, où tombaient des flocons coupants comme des lames, qui semblaient presque de la grêle, poussés par un vent impétueux qui soufflait d'occident. Devenu mou sous cette neige, qui d'abord avait fondu et puis durci en lamelles de glace, son corps avait été trouvé au pied du surplomb, déchiqueté par les rochers où il avait rebondi. Pauvre et fragile chose mortelle, que Dieu eut de lui miséricorde. À cause des nombreux rebonds que le corps avait faits dans sa chute, il n'était pas aisé de dire de quel point exact il était tombé. Certainement d'une des verrières qui s'ouvraient sur trois ordres d'étages et sur les trois côtés de la grosse tour exposée vers l'abîme. « Où avez-vous enseveli le pauvre corps ?» s'enquit Guillaume. « Dans le cimetière, naturellement, » répondit l'abbé. « Peut-être l'aurez-vous remarqué, il s'étend entre le côté septentrional de l'église, l'édifice et le potager. » « Je vois, » dit Guillaume, « et je vois que votre problème est le suivant. Si ce malheureux s'était, à Dieu ne plaise, suicidé, puisqu'on ne pouvait penser qu'il fût tombé accidentellement, le lendemain, vous auriez trouvé une de ces fenêtres ouvertes, tandis que vous les avez retrouvées toutes fermées, et sans qu'au pied d'aucune apparussent des traces d'eau. » L'abbé était un homme, je l'ai dit, d'un grand tact, d'une grande allure, mais cette fois, il eut un mouvement de surprise qui lui ôta toute trace de cette dignité qui sied à une personne grave et magnanime, comme le veut Aristote. « Qui vous l'a dit ?»« Vous me l'avez dit vous-même, » dit Guillaume. « Si la fenêtre avait été ouverte, vous auriez aussitôt pensé qu'il s'y était jeté. D'après ce que j'ai pu en juger de l'extérieur, il s'agit de grandes fenêtres à vitrage opaque, et des verrières de ce type ne s'ouvrent pas d'habitude dans des édifices aussi massifs à hauteur d'homme. Si donc elle avait été ouverte, puisqu'il est impossible que le malheureux s'y fût penché et eût perdu l'équilibre, il ne resterait plus qu'à penser à un suicide. En ce cas-là, vous ne l'auriez pas laissé enterrer en terre consacrée. Mais comme vous l'avez enterré chrétiennement, les fenêtres devaient être fermées. Or, si elles étaient fermées, n'ayant jamais rencontré pour ma part, pas même dans les procès en sorcellerie, un mort impénitent auquel Dieu ou le diable ait permis de remonter de l'abîme pour effacer les traces de son forfait, il est évident que le suicidé présumé a été plutôt poussé par une main humaine ou par une force diabolique, comme on veut. Et vous vous demandez qui peut l'avoir, je ne dis pas poussé dans l'abîme, mais hissé contre son gré jusque sur le rebord de la fenêtre, et vous êtes troublé parce qu'une force maléfique, naturelle ou surnaturelle, c'est à voir, rôde maintenant à travers l'abbaye. C'est ainsi, dit l'abbé, et on ne savait trop s'il confirmait les mots de Guillaume ou se donnait raison à lui-même des raisons que Guillaume avait si admirablement produites. Mais comment faites-vous pour savoir qu'il n'y avait d'eau au pied d'aucune verrière ?
Puisque vous m'avez dit que le vent soufflait d'occident, l'eau ne pouvait être poussée contre des fenêtres qui s'ouvrent à l'Orient.
On ne m'avait pas suffisamment dit vos vertus, dit l'abbé. Vous avez raison, il n'y avait point d'eau et à présent je sais pourquoi. Les choses se sont passées comme vous dites, et maintenant, vous comprenez mon angoisse. Cela eût été déjà grave si l'un de mes moines s'était souillé de l'abominable péché de suicide, mais j'ai des raisons de penser qu'un autre d'entre eux s'est souillé d'un péché tout aussi terrible, et n'était que celui-ci. Avant tout, pourquoi un des moines ? Dans l'abbaye, il y a beaucoup d'autres personnes, des palefreniers, des chevriers, des serviteurs.
Certes, c'est une abbaye petite mais riche, admit l'abbé avec suffisance. 150 servants pour 60 moines. Mais tout s'est passé dans l'édifice. Là, comme peut-être vous savez déjà, même si au premier étage sont les cuisines et le réfectoire, aux deux étages supérieurs, il y a le scriptorium et la bibliothèque. Après le souper, on ferme l'édifice, et il est une règle très rigoureuse qui interdit à quiconque d'y accéder. Il devina la question de Guillaume et ajouta aussitôt, mais clairement à contre-cœur, « y compris les moines, naturellement, mais... » « Mais... » « Mais j'exclus absolument, absolument, vous comprenez, qu'un servant ait eu le courage d'y pénétrer de nuit. » Dans ses yeux passa comme un sourire de défi qui fut rapide comme l'éclair ou une étoile filante. Disons qu'ils auraient peur, vous savez. Parfois, les ordres donnés aux gens simples, il les faut renforcer avec quelques menaces, comme le présage qu'il puisse arriver quelque chose de terrible aux transgresseurs et par une force surnaturelle. Un moine, en revanche... Je comprends. Non seulement, mais... Un moine pourrait avoir d'autres raisons pour s'aventurer dans un lieu interdit. Je veux dire des raisons... Comment dire... raisonnables, fussent-elles contraires à la règle. Guillaume se rendit compte que l'abbé était mal à l'aise et il émit une question qui peut-être visait à dévier le discours, mais qui produisit un redoublement d'embarras. En parlant d'un possible homicide, vous avez dit « et n'était que celui-ci ». Qu'entendiez-vous par là ? J'ai dit cela ? Eh bien, on ne tue pas sans raison, pour perverse qu'elle soit, et je tremble à la pensée de la perversité des raisons qui peuvent avoir poussé un moine à tuer un confrère. Voilà, c'est cela. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre que je puisse vous dire. Vous voulez dire qu'il n'y a rien d'autre que vous ayez le pouvoir de dire ? Je vous en prie, frère Guillaume, frère Guillaume. » Et l'abbé voulut souligner et le lien religieux et le lien fraternel. Guillaume rougit vivement et commenta « Eris sacerdos in eternum ». « Merci, » dit l'abbé. Ô Seigneur Dieu, quel mystère terrible effleurait en cet instant mes imprudents supérieurs, poussés l'un par l'angoisse et l'autre par la curiosité. Car, novice qui s'acheminait vers les mystères du Saint-Sacerdoce de Dieu, moi aussi, humble jeune homme, je compris que l'abbé savait quelque chose, mais qu'il l'avait appris sous le sceau de la confession. Il avait dû savoir des lèvres de quelqu'un certains détails criminels qui pouvaient être en relation avec la fin tragique d'Adelme. C'est pour cela peut-être qu'il priait frère Guillaume de découvrir un secret qu'il soupçonnait sans pouvoir le révéler à personne, et qu'il espérait que mon maître fît la lumière avec les forces de l'intellect sur tout ce qu'il devait envelopper d'ombre en vertu du sublime empire de la charité. « Bien, » dit alors Guillaume, « pourrais-je poser des questions aux moines ?
Vous pourrez.
Pourrais-je circuler librement dans l'abbaye ? Je vous en confère la faculté. M'investirez-vous de cette mission coram monacos ?
Ce soir même.
Je commencerai pourtant aujourd'hui, avant que les moines sachent de quoi vous m'avez chargé. Et en outre, j'avais le grand désir, et ce n'est pas la moindre raison de mon passage ici, de visiter votre bibliothèque, dont on parle avec admiration dans toutes les abbayes de la chrétienté. » L'abbé se leva presque d'un bond, le visage crispé.
« Vous pourrez circuler dans toute l'abbaye, j'ai dit.
Certes pas dans le dernier étage de l'édifice, dans la bibliothèque.
Pourquoi ?
J'aurais dû vous l'expliquer avant et je croyais que vous le saviez. Vous savez que notre bibliothèque n'est pas comme les autres.
Je sais qu'elle renferme plus de livres que toute autre bibliothèque chrétienne. Je sais qu'à côté de vos armaria, ceux de Bobbio ou de Pomposa, de Cluny ou de Fleury ont l'air de la chambre d'un enfant à peine initié à l'abécédaire. Je sais que les 6000 manuscrits dont se targuait il y a plus de 100 ans Novalesa sont peu de choses à côté des vôtres, et que peut-être un grand nombre de ceux-là sont ici maintenant. Je sais que votre abbaye est l'unique lumière que la chrétienté puisse opposer aux 36 bibliothèques de Bagdad, aux 10 000 manuscrits du vizir Ibn al-Alkami, que le nombre de vos bibles égale les 2 400 Corans dont s'enorgueillit le Caire, et que la réalité de vos armaria est lumineuse évidence contre la fière légende des infidèles qui, voilà des années, voulaient, intimes comme ils sont du prince du mensonge, faire à croire que la bibliothèque de Tripoli était riche de 6 millions de volumes et habitée par 80 000 commentateurs et 200 scribes. C'est ainsi, que le ciel soit loué. Je sais que d'entre les moines qui vivent parmi vous, beaucoup viennent d'autres abbayes disséminées de par le monde, qui pour un temps limité, le temps de copier des manuscrits introuvables ailleurs, afin de les emporter ensuite dans leur propre monastère, non sans vous avoir apporté en échange quelque autre manuscrit d'insigne rareté que de votre côté vous copierez et insérerez dans votre trésor, et qui pour un très long temps, parfois jusqu'à la mort, parce que ici seulement se peuvent trouver les ouvrages qui illuminent la recherche. Et vous avez donc parmi vous des Germains, des Daces, des Hispaniques, des François et des Grecs. Je sais que l'empereur Frédéric, il y a des années et des années de cela, vous demanda de compiler pour lui un livre sur les prophéties de Merlin et de le traduire ensuite en arabe pour l'envoyer comme cadeau au sultan d'Égypte. Je sais enfin qu'une abbaye glorieuse telle que celle de Murbach, en ces temps si tristes, n'a plus un seul scribe, qu'à Saint-Gall sont restés peu de moines qui sachent écrire, que c'est désormais dans les cités que naissent corporations et guildes composées de séculiers qui travaillent pour les universités et que seule votre abbaye renouvelle de jour en jour, que dis-je, porte à des sommets toujours plus hauts les gloires de votre ordre. « Monasterium sine libris », cita pensivement l'abbé, « est sicut civitas sine opibus, castrum sine numeris, coquina sine supelectili, mensa sine quibis, hortus sine herbis, pratum sine floribus, arbor sine folis. » Et notre ordre, en grandissant autour du double commandement du travail et de la prière, fut lumière pour tout le monde connu, réserve de savoir, sauvegarde d'une doctrine fort ancienne qui menaçait de disparaître dans des incendies, des mises à sac et des tremblements de terre, creuset d'une nouvelle écriture et levain pour l'ancienne. Mais nous vivons à présent des temps très obscurs. Le peuple de Dieu est maintenant enclin au commerce et aux guerres de factions. En bas, dans les grands centres habités, où ne peut trouver demeure l'esprit de la sainteté, non seulement on parle, que peut-on demander d'autre à des laïcs, mais déjà on écrit en vulgaire, et que jamais aucun de ces volumes puisse franchir nos murs, source d'hérésie qu'il devient fatalement. Pour les péchés des hommes, le monde est suspendu sur le bord de l'abîme, pénétré de l'abîme même que l'abîme invoque. Et demain, comme voulait Honorius, les corps des hommes seront plus petits que les nôtres, de même que les nôtres sont plus petits que ceux des antiques. Mundus cedescit. Or, si Dieu a confié à notre ordre une mission, c'est celle de s'opposer à cette course vers l'abîme, et en conservant, en répétant et en défendant le trésor de sagesse que nos pères nous ont confié. La divine providence a ordonné que le gouvernement universel, qui au commencement du monde était en Orient, au fur et à mesure que les temps s'approchaient, se déplaça vers l'Occident pour nous avertir que la fin du monde approche, car le cours des événements a déjà atteint les confins de l'univers. Mais tant que le millénaire n'échèrera pas définitivement, tant que ne triomphera pas, fût-ce pour peu de temps, la bête immonde qui est l'Antéchrist, il nous revient de défendre le trésor du monde chrétien et la parole même de Dieu, telle qu'il la dicta aux prophètes et aux apôtres, telle que les pères la répétèrent sans changer un seul mot, telle que les écoles ont cherché de la gloser, même si aujourd'hui, au cœur des écoles, se love le serpent de l'orgueil, de l'envie, de la folie. Dans ce déclin, nous sommes encore flambeaux et lumières hautes sur l'horizon. Mais tant que ces murailles résisteront, nous serons les gardiens de la parole divine. Ainsi soit-il, dit Guillaume d'un ton dévot. Mais quel rapport avec le fait qu'on ne peut visiter la bibliothèque ? Voyez, frère Guillaume, dit l'abbé, pour pouvoir réaliser l'œuvre immense et sainte qui enrichit ces murailles, et il indiqua la masse de l'édifice qu'on entrevoyait par les fenêtres de la cellule, trônant au-dessus de l'église abbatiale elle-même, des hommes pleins d'abnégation ont travaillé pendant des siècles en suivant des règles de fer. La bibliothèque est née selon un dessein resté obscur pour tous,
au cours des siècles et qu'aucun des moines n'est appelé à connaître. Seul le bibliothécaire en a reçu le secret du bibliothécaire qui le précéda et le communique encore en vie à l'aide bibliothécaire de façon que la mort ne le surprenne pas en privant ainsi la communauté de ce savoir. Et leurs lèvres à tous deux sont scellées par le secret. Seul le bibliothécaire, outre qu'il sait, a le droit de circuler dans le labyrinthe des livres. Lui seul sait où les trouver et où les replacer. Lui seul est responsable de leur conservation. Les autres moines travaillent dans le scriptorium et peuvent connaître la liste des volumes que la bibliothèque renferme. Mais souvent, une liste de titres dit fort peu, seul le bibliothécaire sachant, d'après l'emplacement du volume, d'après le degré de son inaccessibilité, quel type de secret, de vérité ou de mensonge le volume recèle. Lui seul décide comment, quand et de l'opportunité de pourvoir le moine qui en fait la demande, parfois après m'avoir consulté. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes pour toutes les oreilles, tous les mensonges ne peuvent pas être reconnus comme tels par une âme pieuse, et les moines, enfin, sont dans le scriptorium pour mener à bonne fin un ouvrage précis pour lequel ils doivent lire certains volumes et d'autres pas, et non point pour suivre toutes les curiosités insensées dont ils seraient pris soit par faiblesse d'esprit, soit par orgueil, soit par suggestion diabolique. Il y a donc aussi dans la bibliothèque des livres qui contiennent des mensonges. Les monstres existent parce qu'ils font partie du dessein divin, et jusque dans les traits horribles des monstres se révèle la puissance du Créateur. Ainsi, par dessein divin, existent aussi les livres des mages, les cabales des juifs, les fables des poètes païens, les mensonges des infidèles. Ce fut la ferme et sainte conviction de ceux qui ont voulu et soutenu cette abbaye au cours des siècles, que même dans les livres mensongers puisse transparaître, aux yeux du lecteur sagace, une pâle lumière de la sagesse divine. C'est pourquoi, fût-ce à ces livres, la bibliothèque fait écrin. Mais précisément, de ce fait, vous comprenez, n'importe qui ne peut y pénétrer. Et en outre, ajouta l'abbé comme pour s'excuser de la pauvreté de ce dernier argument, le livre est créature fragile, il souffre de l'usure du temps, craint les rongeurs, les intempéries, les mains inhabiles. Si pendant 100 et 100 ans, tout un chacun avait pu librement toucher nos manuscrits, la plus grande partie d'entre eux n'existerait plus. Le bibliothécaire les défend donc non seulement des hommes, mais aussi de la nature et consacre sa vie à cette guerre entre les forces de l'oubli, ennemis de la vérité. Ainsi, nul n'entre au dernier étage de l'édifice, sauf 2 personnes. L'abbé sourit. Nul ne doit, nul ne peut. Personne, même en le voulant, n'y réussirait. La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge, trompeuse comme le mensonge qu'elle enserre. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un labyrinthe terrestre. Vous pourriez entrer et vous ne pourriez plus sortir. Et cela dit, je voudrais que vous vous conformiez aux règles de l'abbaye. Mais vous-même n'avez pas exclu qu'Adelme puisse avoir déboulé d'une des fenêtres de la bibliothèque. Et comment puis-je raisonner sur sa mort si je ne vois pas le lieu où pourrait avoir commencé l'histoire de sa mort ? Frère Guillaume, dit l'abbé d'un ton conciliant, un homme qui a décrit mon cheval Brunel sans le voir et la mort d'Adelme sans en connaître presque rien n'aura point de difficulté à raisonner sur les lieux auxquels il n'a pas accès. Guillaume se ploya en une inclination. Vous êtes sage, même quand vous êtes sévère. Comme il vous plaira. Si onque était sage, je le serais parce que je sais être sévère, répondit l'abbé. Une dernière chose, demanda Guillaume. Hubertin ? Il est ici, il vous attend. Vous le trouverez à l'église. Quand ? Toujours, sourit l'abbé. Vous savez, encore que fort docte, il n'est pas homme à apprécier la bibliothèque. Il la considère comme une complaisance du siècle. Il passe le plus clair de son temps à l'église, en méditation, en prière. Est-il vieux ? Demanda Guillaume avec hésitation. Depuis quand ne l'avez-vous pas vu ? Depuis bien des années. Il est là, très détaché des choses de ce monde. Il a 68 ans, mais je crois qu'il a encore l'âme de sa jeunesse. Je vais le chercher sans tarder. Je vous remercie.
L'abbé lui demanda s'il ne voulait pas s'unir à la communauté pour le repas, après sexte. Guillaume dit qu'il venait de manger, et fort confortablement, et qu'il préférerait voir tout de suite Hubertin. L'abbé salua. Il franchissait le seuil de la cellule quand s'éleva de la cour un hurlement déchirant, comme d'une personne blessée à mort, que suivirent des lamentations tout aussi atroces. « Qu'est-ce ? » demanda Guillaume, déconcerté. « Rien, » répondit l'abbé en souriant. « En cette saison, on tue les cochons. Du travail pour les porchers. Ce n'est pas de ce sang-là que vous devrez vous occuper. » Il sortit et fit tort à sa renommée d'homme prudent. Car le matin suivant... Mais freine ton impatience, ô ma langue pétulante, parce que le jour dont je parle, et avant la nuit, moult choses encore se passèrent qu'il sera bon de relater.